recherchent la faille. Il y en a combien qui ont failli
Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 19 juin 2023, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Les Maliens ont voté dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution. Le Burkina Faso salue une décision courageuse après la demande malienne de retrait de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. En Ouganda, des familles éplorées enterrent leurs morts après l'attaque djihadiste contre un lycée. Conférence à Genève pour tenter de débloquer l'aide au Soudan. Dernier jour de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Chine. Possible rencontre avec le président Xi Jinping. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les Maliens ont voté hier dans un référendum sur un projet de nouvelle constitution en raison de la menace djihadiste persistante et des divergences politiques. De nombreuses localités du nord et du centre n'ont pas pu organiser le scrutin. Cette élection est la première depuis la prise du pouvoir par les militaires Yacouba Ouédraogo.
Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a été parmi les premiers à voter à Kati, près de Bamako. Je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être de la population, a-t-il dit. Mais les groupes armés du Nord ont fait barrage à la consultation dans la ville stratégique de Kidal et sa région. Les anciens mouvements rebelles signataires d'une paix fragile avec Bamako disent ne pas retrouver l'accord qu'ils ont signé en 2015 et ont refusé d'y permettre l'acheminement du matériel électoral pour cette consultation. Dans la région de Ménaka, les opérations se sont limitées à la capitale régionale en raison de l'insécurité. Un consortium d'observateurs nationaux de la société civile, le modèle soutenu par l'Union européenne, a rapporté dans un communiqué le non-fonctionnement pour cause d'insécurité de plus de 80 bureaux de vote dans la région de Mopti. Environ 8,4 millions de Maliens étaient appelés à dire oui ou non au texte que leur soumettait la junte au pouvoir depuis 2020. L'acceptation ou non d'un renforcement des pouvoirs présidentiels est l'un des enjeux de la consultation. Les résultats sont attendus dans les 72 heures.
Le Burkina Faso a salué hier la demande de retrait de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, demande faite vendredi par Bamako. Il y voit une décision courageuse et conforme à la vision des autorités maliennes dans la lutte contre les violences djihadistes qui touchent ces deux pays voisins et pour la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel. C'est ce qui ressort d'un communiqué du porte-parole burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Ouagadougou invite aussi la communauté internationale au strict respect des choix opérés par le Mali et demande au secrétaire général des Nations Unies de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour le retrait des troupes burkinabées engagées au Mali dans le cadre de la MINUSMA. En Mauritanie, l'opposition a marché samedi soir à Nouakchott pour réitérer sa demande de réorganisation des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai dernier. L'autre sujet de la marche est relatif à l'affaire Oumar Diop, le jeune noir dont la mort peu après son arrestation par la police a provoqué la colère de la rue, causant un second décès. Selon le parquet général, le jeune Oumar est mort d'un arrêt cardiaque. Au Nigeria, de nouveaux affrontements entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs ont fait depuis vendredi au moins 13 morts dans le centre du pays, ont affirmé hier des responsables communautaires et les autorités locales. Ces dernières semaines, l'état de plateau a connu une résurgence des tensions et des conflits meurtriers entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs qui se disputent l'exploitation de la terre et des ressources. L'enchaînement de meurtres suivis d'actes de représailles a donné naissance dans la région à une criminalité plus large avec des gangs qui mènent des expéditions ciblés dans des villages où ils tuent des habitants par dizaines, procèdent à des pillages et des enlèvements contre rançon. En Ouganda, des familles éplorées ont enterré hier leurs morts dans l'ouest du pays, tandis que d'autres mènent une quête désespérée pour retrouver des proches portés disparus à la suite de l'attaque terroriste perpétrée dans un lycée. Cette attaque a entraîné la perte tragique d'au moins 41 vies, principalement des élèves. De nouveau, Yakuba Ouedraogo.
L'assaut a visé le lycée Lubiriha en Pondoué, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Des témoins ont déclaré que les élèves avaient verrouillé leurs portes lorsqu'ils ont entendu des coups de feu. 20 d'entre eux ont tenté de s'échapper, mais ont tous été tués à coups de machette. 17 élèves ont été brûlés dans leur dortoir, totalement détruits par un incendie, et 20 autres ont été tués à coups de couteau. Le président Yoweri Museveni a qualifié l'attaque d'acte désespéré, lâche et promis d'éliminer les responsables de cet assaut sanglant, le pire de ce type perpétré dans le pays depuis des années. Le pape François a prié dimanche pour les jeunes victimes de cette attaque brutale qui a choqué l'Ouganda et suscité de vives condamnations internationales. L'Union africaine, la France et les États-Unis, proches alliés de l'Ouganda, ont présenté leurs condoléances et condamné cette effusion de sang. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié cette attaque d'effroyable, déclarant que les responsables de cet acte doivent être jugés. Des responsables de l'armée et de la police ougandaise ont incriminé des membres des forces démocratiques alliées, ADF. Les assaillants ont fui vers le parc des Virunga, situé en territoire congolais, enlevant également 6 personnes après leur raid meurtrier, selon l'armée et la police ougandaise, qui ont promis de libérer ces otages.
Genève accueille ce lundi une conférence parrainée par l'Arabie saoudite pour tenter d'acheminer l'aide humanitaire au Soudan, qui arrive au compte-gouttes dans ce pays ravagé depuis plus de 2 mois par une guerre entre généraux rivaux. Une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur dimanche entre l'armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les militaires des FSR, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les deux camps se sont engagés à cesser tout mouvement pour laisser passer l'aide humanitaire dans le pays. Même si les armes se sont tues hier après plusieurs jours de pilonnage ininterrompu, médicaments et vivres se font toujours rares. La cour d'appel d'Alger a alourdi sensiblement hier une condamnation contre le patron de presse Hissan El Kadi, emprisonné depuis décembre en lui infligeant une peine de 7 ans de prison dont 5 ans ferme, soit 2 ans de plus qu'en première instance. Un verdict choquant et incompréhensible a écrit sur Twitter le représentant de l'ONG Reporters sans frontières. L'arrestation de El Kadi a suscité une vague de solidarité parmi ses collègues et les militants des droits humains en Algérie et en Europe. Une pétition lancée par RSF pour obtenir sa libération a recueilli plus de 10 000 signatures.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, arrivé dimanche à Pékin, a débuté ce lundi un entretien avec le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi dans le cadre d'une visite visant à apaiser les tensions bilatérales. Il a d'abord rencontré hier son homologue chinois Qin Gang, M. Qin, pour éviter la confusion, est le ministre des Affaires étrangères, tandis que Wang Yi, principal responsable des questions diplomatiques au sein du PC, conserve à ce titre la haute main sur la politique extérieure de la Chine. Washington a salué hier des discussions constructives et honnêtes avec M. Qin et s'est en outre réjoui de l'accord qu'il a donné pour une future visite à Washington. Eric Manirakidza.
Monsieur Blinken a rencontré son homologue chinois dans une villa d'État située dans les anciens jardins d'Yayutai à Pékin. Les deux hommes ont eu des entretiens francs, substantiels et constructifs, a déclaré le porte-parole du département d'État au terme de l'entretien. Monsieur Blinken a notamment souligné l'importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l'ensemble des questions afin de réduire le risque de perception erronée et d'erreurs de calcul, a-t-il précisé. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a rappelé à son homologue américain que les relations entre Pékin et Washington étaient au point le plus bas depuis le début de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1979, selon des propos rapportés par la télévision d'État CCTV. Anthony Blinken a également invité M. Quinn et les deux hommes se sont mis d'accord pour programmer une telle visite à une date qui leur conviendrait mutuellement. Cette visite de deux jours est le premier déplacement d'un chef de la diplomatie américaine sur le sol chinois en près de 5 ans. Dimanche, le président Joe Biden a dit espérer une nouvelle rencontre avec Xi Jinping au cours des prochains mois.
M. Blinken pourrait lui-même rencontrer ce lundi le président Xi Jinping. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon un rapport de la Banque mondiale, les envois de fonds des migrants vers les pays d'Afrique subsaharienne ont augmenté de 6,1% l'an dernier pour s'établir à 53 milliards de dollars. Une hausse qui s'explique par l'augmentation de 25% des transferts vers la Tanzanie, de 21% vers le Rwanda, de 17% vers l'Ouganda et 12% vers le Ghana. Les flux à destination du Nigeria, qui constituent 38% du total des montants transférés, ont atteint plus de 20 milliards de dollars. Cette année, les pays les plus pauvres vont devoir restreindre leurs importations à cause du prix élevé de certaines denrées, alerte la FAO dans son rapport sur les perspectives de l'alimentation. Les prix des fruits, des légumes et des produits laitiers continuent de progresser, ce qui freine la demande dans les pays vulnérables. Ce recul pourrait aller jusqu'à 5%. La baisse des volumes d'importation dans ces pays est une évolution préoccupante, suggérant une diminution de leur capacité d'achat, selon la FAO. Le Forum pour le développement 2023 du Fonds OPEP se tiendra le 20 juin à Vienne en Autriche sous le thème « Renforcer la résilience et l'équité ». La conférence explorera les défis et opportunités pour assurer un développement durable et servira de plateforme d'échange entre les décideurs, ONG, entreprises et la société civile. Plus de 300 participants sont attendus, dont 50 organisations internationales de développement.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football au programme, la course à qualification de la CAN 2023 de janvier prochain. On connaît de nouveaux pays qualifiés.
Oui, notamment le Mali qui est allé battre le Congo à Brazzaville 2-0. Le Nigeria également a composté son ticket après avoir battu la Sierra Leone 3-2. La rencontre s'est déroulée au Libéria, un résultat qui qualifie au passage la Guinée-Bissau, vainqueur mercredi de Sao Tomé. Et puis, c'est fait aussi pour le Cap-Vert qui s'est imposé 3-1 devant le Burkina Faso.
Une CAN 2024 que verra également la Zambie.
Tout à fait. Les Chipolopolo y seront 8 ans après leur dernière participation suite à leur nette victoire 3-0 sur la Côte d'Ivoire. Qualification également de la Guinée équatoriale. Tombeuse 1-0 de la Tunisie et de l'Afrique du Sud qui a infligé une première défaite au Maroc depuis le mondial au Qatar.
Le Bénin peut aussi croire à la qualification.
Oui, après son nul 1-1 à domicile face au Sénégal. Un bon résultat suite à un gros match livré par les Guépas, surtout en seconde période, reconnaît le sélectionneur Guénot Rohr. Les Béninois, désormais troisième, joueront leur qualification à Maputo face au Mozambique classé deuxième après son succès 2-0 au Rwanda. Et puis, parmi les autres résultats, l'Angola s'est relancée après sa victoire 2-1 en Centrafrique, tout comme la RDC qui est allée battre le Gabon 2-0. La Tanzanie aussi peut espérer une qualification après avoir dominé 1-0 le Niger. Par contre, le Ghana grille un joker en se faisant accrocher par Madagascar, score 0-0.
Suite et fin de cette cinquième journée demain avec deux possibles qualifications.
Effectivement, Idrissa, et ça concerne la Namibie et le Soudan. Les Braves Warriors peuvent décrocher leur quatrième qualification s'ils ne perdent pas contre le Burundi. Même mission pour le Soudan qui a besoin d'une victoire face à la Mauritanie.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, c'était quelques 8 millions de Maliens qui étaient appelés hier aux urnes pour le vote référendaire. Il s'agissait pour eux de dire oui ou non au nouveau projet de constitution proposé par le gouvernement de transition. La laïcité et le renforcement des pouvoirs présidentiels sont parmi les sujets qui font débat. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, a fait le tour de quelques centres de vote. Il nous fait le point.
C'est à 9h passées de quelques minutes que le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Maître Moustapha Cissé, accompagné d'une forte délégation, a fait son entrée au sein de l'école publique de Garanti-Guibougou en commune 5 pour accomplir son devoir citoyen. S'il a affirmé l'ouverture de la quasi-totalité des bureaux de vote sur le cas Kidal, il botte en touche.
Merci de ne pas évoquer le cas spécifique d'une localité. Vous savez, le Mali est entier. Et le vote s'est déroulé partout à l'heure où je vous parle. Et nous avons les informations que les bureaux de vote ont été ouverts à l'heure. Et nous espérons que d'ici la fermeture, nous aurons la topographie.
À la mi-journée, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali indiquait dans un communiqué que les bureaux de vote n'avaient pas ouvert à Kidal jusqu'à midi. De son côté, le pool d'observateurs de Modèle Mali relevait des incidents, notamment à Ménaka. Abdoulaye Guindo est l'un de ces observateurs.
Il y a des incidents qui ont été signalés par-ci et par-là. Dans certains bureaux de vote, on a constaté que les bulletins de vote blancs étaient déjà épuisés. Dans certaines localités, comme dans la région de Ménaka, des hommes armés non identifiés ont sommé des populations à rentrer chez elles si elles veulent finir la journée vivante. Donc, dans cette localité, le bureau de vote a été fermé pour raison de sécurité.
Si l'impression générale qui se dégage fait croire que les Maliens sont majoritairement favorables à la nouvelle constitution, il s'agit en réalité, selon Djigba Keïta du PPR, du Front uni contre le référendum, d'une peur d'exprimer son opinion. À Bamako, si le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité, le pari de l'affluence a été surtout gagné par les personnes du troisième âge. Écoutons cet électeur, Rigobert Dacou.
Tout bon citoyen doit venir voter. Le vote est bon pour nous. C'est pour l'avenir du pays, pour l'avenir des enfants.
Les rares jeunes à avoir fait le déplacement n'ont pas été épargnés par le désagrément. Nene Goïta.
On a envoyé nos numéros de la carte NINA pour en tout cas nous référer sur le bureau de vote et le centre. Et malheureusement, jusque-là, nous sommes à la recherche. Apparemment, il y a eu des mutations de salles et de centres également. Donc, jusque-là, on est à l'attente, à la recherche de la salle pour pouvoir voter parce que ce vote est vraiment important pour tous les Maliens.
Les observateurs s'accordent sur l'accessibilité des bureaux de vote, la présence des agents électoraux et la sécurisation du scrutin, gage de sa transparence. L'élection présidentielle au Mali est prévue en 2024. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Niger, les régions de l'Ouest, dont la capitale Niamey, sont confrontées depuis quelques jours à un manque d'électricité. Du fait de perturbations au niveau de ses fournisseurs, la société chargée de fournir l'énergie procède à un rationnement par des délestages qui ne sont pas du tout du goût des consommateurs, nous dit dans ce reportage notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le calvaire dure plus de 10 jours maintenant, des journées entières ou à moitié, où les citoyens des régions du fleuve, ceux de la capitale Niamey notamment, sont privés d'électricité, bloquant toute activité. Les responsables en charge du secteur expliquent la situation par des difficultés qu'éprouvent les principaux fournisseurs de la Nigérienne de l'électricité. Ibrahim Yakoubou, ministre de l'énergie.
Au niveau de Gorubanda, en raison de la panne de deux groupes, la capacité de production a été divisée par deux. Et au niveau de Istitimar, qui est le producteur indépendant, il a perdu à peu près 15 MW. À côté, vous avez aussi les difficultés qui sont courantes par rapport à la fourniture du Nigeria. Donc ces trois facteurs cumulés ont créé les conditions d'une production rabaissée et au niveau de la Nigelec en tout et pour tout. Elle ne pouvait produire à peu près que 160 à 170 MW, ce qui a conduit à des délestages sur quelques périodes dans certains quartiers, tout en épargnant les services stratégiques.
Pourtant, dans certains services stratégiques, le pire est arrivé du fait de ces coupures.
C'est dérangeant surtout du point de vue sanitaire. Il y a tout récemment, j'ai appris une perte de vie d'un enfant de 4 mois et ça m'a vraiment épeuré. Oui.
C'est aussi le ras-le-bol chez les femmes qui observent impuissantes la dégradation de leurs produits conservés.
Les aliments qu'on conserve dans les réfrigérateurs, donc ça se gâte. Il y a aussi, tout est au ralenti, quoi. Les gens payent leurs factures, donc ils se doivent des explications.
Pour cet autre citoyen, il faut des sanctions et les abonnés de la Nigelec doivent envisager d'autres alternatives.
Il va falloir commencer à sanctionner. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand ça se devient répétitif, c'est que ça devient impardonnable et la sanction doit tomber. Les citoyens ont la possibilité de comment on appelle, de sévir. La meilleure façon de sévir, c'est d'abandonner les prestations de la Nigeria.
Au niveau des autorités, on relativise la situation et les passagères, selon le ministre de l'Énergie, Ibrahim Yakoubou, qui ajoute que l'État est dans une logique d'accroissement des capacités de production.
Nous avons un ensemble de chantiers ou qui sont en cours ou qui vont démarrer, qui vont nous permettre d'avoir une centrale solaire à Niamey, le 5G, Inch'Allah, de 30 MW. Nous allons construire une centrale solaire à Dosso de 10 MW, une centrale à Difa de 10 MW, une centrale à Maradi de 20 MW. Nous avons un grand projet éolien dans la Tarka, dans la région de Tawa, pour produire 250 MW. Nous avons un projet avec un acteur privé qui va produire ici à Bangoula et à Junju 100 MW. Nous avons le programme de la Banque mondiale qui va faire 50 MW l'année prochaine. Donc nous avons des capacités en chantier ou qui vont être installées, qui vont nous permettre de progresser.
Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique.
Le gouvernement béninois fait la guerre au travail des enfants. La lutte contre ce phénomène qui prolifère en ville comme en campagne fait l'objet d'une campagne lancée depuis quelques semaines, dénommée « Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence ». Elle entend sensibiliser et décourager cette pratique. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Jeanette Fleur Adandé.
Très jeunes, ils arpentent déjà les rues des villes et campagnes du Bénin à la recherche d'un mieux-être. Au Bénin, tous les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Au marché, dans les ateliers de couture, sur les chantiers, dans les maisons, ils sont privés de leur droit à l'instruction et à la protection. Paul, Mathias et Raoul sont respectivement âgés de 7, 9 et 11 ans. Pour des raisons économiques, ils ont été envoyés sur un chantier de construction.
Je suis ici pour travailler, afin que l'argent soit envoyé à mes parents au village. C'est difficile, j'ai envie de retourner à l'école, mais il n'y a pas l'argent. Moi, ma mère nous a laissé. Je suis avec mon père et mes frères. Et je suis le grand frère. Donc, il faut trouver de l'argent pour que mes frères mangent. Quand l'école me manque, je mets...
Comme ces trois, ils sont nombreux à évoluer dans le cercle vicieux du travail des enfants. Malgré les efforts accomplis dans ce domaine, le chantier reste encore grand. C'est ce qui a nécessité cette campagne de sensibilisation intitulée « Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence ». Firmin Aimé Couton est le préfet de l'une des régions les plus exposées au fléau.
L'enfance est une vallée vers les sommets. Aucune nation ne peut se développer réellement si à la base, elle ne veille sérieusement pas sur le bien-être, l'épanouissement et l'éducation de ses enfants. Il est donc de notre responsabilité de participer activement à la lutte contre le travail des enfants et de dénoncer systématiquement le phénomène.
Pour Gérard Tocpo, qui est le directeur départemental du travail de la fonction publique, cette campagne est une aubaine et permettra de sauver les enfants impliqués dans la mendicité, exploités et privés de leurs droits élémentaires.
Le lancement de cette campagne
constitue un acte très important pour nous parce que cette campagne nous permettra de sensibiliser, mais aussi de réprimer s'il y a lieu en matière de la lutte contre le travail des enfants. Et la séance de sensibilisation continue avec les artisans, les acteurs qui utilisent la main d'œuvre infantile.
En matière de répression, le Bénin dispose d'un arsenal juridique assez impressionnant, selon Belinda Issaku Adamouissou, chef du service de la lutte contre le travail des enfants.
Le Bénin est parti à la Convention internationale des Nations Unies sur les droits des enfants de 1989. Le Bénin a ratifié cette convention-là. Et donc cette convention proscrit le travail des enfants. Mais après avoir ratifié cette convention au niveau international, le Bénin est allé loin également en ratifiant ce qu'on appelle la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Chez nous, au Bénin, on va dire le premier instrument qui permet de parler de l'enfant, de protéger l'enfant, c'est la Constitution du Bénin. La Constitution du Bénin dit que l'enseignement primaire est obligatoire et que les enfants doivent pouvoir bénéficier de l'accès plein à l'éducation. Avec l'adoption du Code de l'enfant, le Bénin a désormais un instrument majeur de protection des droits des enfants.
Selon les résultats de l'enquête mixte réalisée par l'INSTAD, le taux de prévalence nationale en matière de travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022. Malgré cette avancée notable, l'ambition du gouvernement d'atteindre les cibles du point 7 de l'objectif de développement durable sur le travail décent est loin d'être réalisée. Les parents sont conscients de la situation et encourage l'organisation fréquente de ce genre de campagne.
Étant donné que je suis aussi un père d'enfant, je me sens gêné de voir un enfant de moins de 14 ans confié à une bonne dame du marché et cette dernière serait en train de la maltraiter, de lui donner des travaux qui dépassent son âge. Je plaide vraiment le cas de ces enfants.
Nous devons agir le plus rapidement possible pour contrer les actes constituant des violations des droits des enfants et qui ternissent l'image de notre pays, afin savoir la ministre des Affaires sociales Véronique Toinfodé lors du lancement de cette campagne qui dure 4 mois. De Cotonou, je ne crois pas d'aller pour VOA Afrique.
Au Gabon, Libreville a abrité une grande campagne d'évangélisation la semaine dernière, une croisade conduite par le pasteur évangéliste ghanéen Dagewan Mills. Pendant 4 jours, le bishop a drainé des foules à l'occasion des séances de prière publique, des rassemblements aux allures de foire aux miracles très critiqués par une frange de la population. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Dès sa descente d'avion à l'aéroport international Lyomba de Libreville, le bishop ghanéen se signalait déjà par une forte annonce sur les objectifs de sa campagne d'évangélisation.
Nous prions en fait que le Saint-Esprit travaille pendant cette semaine.
Many people are going to be saved.
Plusieurs personnes seront sauvées
and changed.
Et seront changées
and
également
healed.
Et guéries
and delivered.
Et délivrées.
Alors, durant près d'une semaine, des milliers de fidèles pentecôtistes se rassemblaient dans un stade de la périphérie de Libreville autour de leur bienfaiteur, Dagir Mels. Grâce à la magie du verbe inspiré des versets bibliques, il a remué des foules et provoqué des cris d'extase pendant des séances de prière. Morceau choisi. Des scènes dignes d'une foire au miracle dénoncées par certains activistes gabonais, comme le célèbre Bitom.
Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire là? Le fait de dire qu'il peut faire entendre un sourd ou faire marcher un handicapé, c'est du mensonge tout ça.
De l'avis de cet autre observateur de la vie religieuse, la quête de miracles dans la société gabonaise explique l'échec des politiques publiques du gouvernement.
Aller demander au Seigneur le travail dans un pays où les gens volent tous les jours, aller demander au Seigneur le mariage dans un pays où 90% des personnes sont dans le chômage parce que l'État est mal géré, je pense que c'est fait perdre le temps un peu au Seigneur.
Mais pour Arnaud Meillet, fidèle chrétien, une campagne d'évangélisation sert de pont entre l'Église et les âmes égarées.
Ça pour interpeller les gens à revenir au Seigneur parce que l'homme s'est totalement détourné du Seigneur. Maintenant, le Seigneur interpelle dans ces temps de la fin, puisqu'on peut remarquer tous les flots qui mènent la société aujourd'hui là. C'était dénoncé par la parole de Dieu depuis 2000 ans.
Docteur en histoire des religions, Hervé Solmezui pense que l'effervescence autour des croisades d'évangélisation est tout à fait justifiée.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segugia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.